Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast, on va parler d'un média qui va bientôt se lancer en France. Son nom, c'est Blast. Blast se présente comme une web TV et un site d'information libre et indépendant. Son lancement en France est imminent, mais il fait déjà du bruit sur les réseaux sociaux. Il peut notamment se targuer d'avoir récolté plus de 900 000 euros dans une campagne de financement participatif. Pour discuter du positionnement et des ambitions de Blast, j'accueille Paloma Moritz, qui est en charge de l'écologie à Blast. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et avec nous en ligne depuis la Moselle, le journaliste Denis Robert. Bonjour Denis.
Bonjour.
Avant de commencer, première question, le lancement de Blast, c'est pour quand ?
On est en train de démarrer en douceur là. On a lancé quelques programmes, quelques émissions sur le réseau et on va monter en puissance tout le mois d'avril. Il y a 9000 abonnés avant qu'on ait démarré. On est en train de construire les fondations d'une sorte de gratte-ciel qu'il faut qu'on fasse tenir et monter très très haut.
Alors Paloma, justement, Paloma Moritz en charge du pôle écologie. Vous êtes passée par le site de vidéo documentaire Spicy. Vous avez aussi dirigé la campagne On est prêt de mobilisation sur les enjeux climatiques. Parlez-nous de l'atmosphère qui règne actuellement au sein de l'équipe de Blast. Vous avez déjà, je crois, trouvé des locaux.
Oui, en effet, on a trouvé des locaux qui sont temporaires. C'est vrai que c'est un moment assez exceptionnel en fait à vivre, hein, le lancement d'un média. Moi, je l'avais vécu à l'époque avec Spicy. Et là, il y a une très bonne ambiance. Alors, tout le monde est fatigué, hein, clairement, parce qu'il y a eu toute une campagne à préparer pour beaucoup bénévolement, avec énormément d'énergie déployée, parce que voilà, hein, il y a tout un travail derrière pour aller mobiliser les gens et récolter plus de 900 000 euros sur cette campagne, même si on ne s'attendait pas à un tel succès. Et donc, je trouve ça assez génial parce qu'on est une équipe très soudée. C'est des profils qui sont très variés. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes et que des personnes qui sont très compétentes dans leur domaine, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont des expériences aussi parfois dans des médias et qui n'ont pas forcément envie de répéter certaines erreurs, etc. Donc, qui sont aussi justement très vigilantes par rapport au fait de construire le meilleur média possible.
On y reviendra. Denis Robert, vous êtes un petit peu la figure de proue de Blast, pour vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes journaliste, documentariste, écrivain, passé par Libération, connu du grand public pour avoir révélé l'affaire Clearstream, la première, celle qui dénonçait les mécanismes de cette chambre de compensation financière internationale dont le siège est situé au Luxembourg. Il y a eu plus d'une soixantaine de procédures judiciaires contre vous, mais vous avez été totalement blanchi. Parlons d'abord du nom Blast. Blast en français, ça veut dire déflagration, destruction, mais la façon dont vous aimez le raconter, c'est de parler d'un nouveau souffle de l'info. C'est quoi ce nouveau souffle ?
C'est-à-dire, on est parti du constat que les médias dysfonctionnaient d'une manière générale en France. Et en tenant ce propos, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mettre tout le monde dans le même sac en disant tout le monde est mauvais, nous on sera meilleurs. Mais on peut constater, surtout depuis les chaînes Tout Info et puis quand on lit la presse, qui est quand même aux mains de 5 ou 6 milliardaires, qu'il y a une sorte d'uniformisation de l'information. Et donc, il y a des tas de gens qui n'ont pas accès aux médias. Il y a des tas d'informations auxquelles nous, on a accès et qui ne percent pas, quoi. Donc, le point de départ de Blast et ce souffle de l'info, c'est d'aller chercher ces informations, d'aller chercher ces témoins qu'on essaie de cacher un peu loin des regards et loin du peuple, loin des gens, et puis de les mettre en avant, donc de construire en tout cas des récits, du réel, et puis que ce soit en économie, en écologie, en politique, en culture aussi, parce que Blast sera le plus généraliste possible. Et notre regard sur le monde, même si chacun de nous a une idéologie, un point de vue politique, un vote, on est avant tout journaliste, c'est-à-dire que ce n'est pas un média ni partisan, ni idéologique, etc. On veut faire de Blast un concurrent qui un jour sera sans doute, on l'espère en tout cas, au niveau des chaînes Tout Info, par exemple, qui trustent en ce moment 90% de l'espace médiatique.
Alors, on va revenir sur plein de choses que vous venez d'aborder dans votre réponse. Mais avant ça, je vous propose qu'on rembobine et qu'on écoute Denis Robert, en novembre 2013, interviewé dans l'Atelier des médias au micro de Ziad Mahalouf.
J'ai compris assez tôt que l'intérêt du fait divers tenait aussi beaucoup à sa médiatisation. Donc j'étais toujours à 10 mètres derrière la meute, et ce qui m'a permis d'écrire, d'avoir des contacts avec les avocats des deux camps, d'avoir des contacts avec le parquet, etc. Après, je me suis évidemment forgé une opinion, mais mon travail journalistique était très particulier dans cette histoire, ce qui fait que j'ai résisté.
Alors Denis Robert, faire un pas de côté, résister par le travail journalistique, comment on transmet cela et comment transmettez-vous cela aux équipes de Blast ?
C'est assez drôle de réécouter ça parce que je pense que je pourrais, c'était au moment de l'affaire Villemain ça, et je pense que je pourrais tenir un peu les mêmes propos aujourd'hui, quoi. La raison pour laquelle, au fond, tout au fond de moi, je lâche un petit peu mes livres, mes documentaires et le relatif confort de ma vie en Moselle, comme vous l'avez dit, même si je suis très souvent à Paris. Si je fais tout ça, c'est parce que, en tant que lecteur, en tant que type qui regarde la télévision, qui surfe sur Internet, et en voyant monter l'extrême droite, l'intolérance, et surtout après le mouvement des Gilets jaunes, la manière dont on a traité ces gens dans la rue, et enfin toutes ces questions de climat, de dérèglement climatique. Donc en tant que citoyen, on va dire presque ancien journaliste, au moment où je suis l'observateur de tout ça, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à rester comme ça dans mon bureau, à écrire mes petites histoires d'écrivain, et qu'il fallait que je me bouge et que j'aille au contact. Je ne pouvais pas me contenter de débattre avec mes amis sur le vilain Emmanuel Macron ou les méchants policiers qui tapent sur les gens dans la rue, etc. Je me suis dit, il faut que je refasse de l'information, il faut que je retourne au contact et au combat, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de 2 ans, donc j'ai repris un média qui s'appelle Le Média. Et c'est ce travail-là qui m'a fait découvrir, en fait, la puissance et la force d'une web TV. Et donc, 2 ans plus tard, j'étais quand même assez muselé dans le précédent média que je dirigeais. Je me suis dit, avec des gens que j'aime, d'abord c'est l'équipe, même si on est très différents, c'est tout le monde a été choisi pour à la fois ses compétences et puis l'esprit, la tolérance. Enfin, on est porté à peu près par les mêmes valeurs. On va pas réinventer le journalisme, mais on va au moins essayer d'en faire. Et ça semble un peu immodeste, mais faire du journalisme aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un regard sur le monde et puis enquêter et puis dénoncer, etc., c'est une tâche qui est complètement noble, mais aussi qui est très difficile à faire aujourd'hui parce qu'on est forcément un contre-pouvoir, donc on va avoir sur le dos et contre nous des pouvoirs financiers, politiques, judiciaires, etc.
Alors Denis Robert, quand on écoute les productions ou les vidéos de promotion actuellement de Blast sur les réseaux sociaux, on voit un positionnement qui est tout de même assez offensif face aux autres médias, qu'ils soient privés comme BFM TV ou même de services publics comme la matinale de France Inter sur laquelle vous tapez régulièrement. Et là, je vais me tourner plutôt vers Paloma. Comment Blast compte se positionner dans l'écosystème médiatique pour se différencier des autres, et y compris ceux dont les convictions sont assez proches, puisque Denis, comme vous, Paloma, avait travaillé aux médias?
Bah alors déjà, je rejoindrai Denis sur cette nécessité aujourd'hui de faire émerger un autre récit. En tout cas, en fait, de raconter cet autre récit qui existe déjà, mais qui n'est pas encore assez visible dans les médias. Denis le disait, aujourd'hui, il y a une défiance énorme. La raison pour laquelle Blast tape, entre guillemets, sur BFM TV, c'est parce que BFM TV est le média le plus regardé par les Français et en même temps le média en lequel les Français ont le moins confiance, ce qui est quand même le paradoxe absolu de notre rapport aux médias. Et un chiffre qu'on cite aussi dans notre campagne, c'est que 23% des Français ont confiance en l'information livrée par les médias. Donc on a un devoir en tant que journaliste d'essayer de remédier à ça, de recréer ce lien de confiance. Et comment est-ce qu'on le fait ? On le fait en allant à l'encontre de cette tendance qu'on voit de plus en plus dans les médias et qui est très dangereuse, qui est une forme d'hystérisation du débat public, qui a tendance à présenter les faits de façon binaire, à opposer des camps, et ça c'est très très dangereux aussi. Et la façon dont Blast va remédier à ça, c'est déjà en prenant le temps de la réflexion, en prenant le temps long, aussi en se saisissant de sujets qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas forcément sexy au prime abord et qui pourtant en fait intéressent. Typiquement, voilà, si je donne un exemple, moi j'ai récemment fait un reportage sur comment les lobbies et le gouvernement avaient saboté la loi climat. C'est des questions qui sont assez techniques et qui montrent aussi justement le fait qu'on a hystérisé le débat public autour des questions écologiques et qu'on a tendance à opposer les écolos sectaires Amish à la lampe à huile avec les tenants du pragmatisme, du rationnel qui croient aux solutions protectionnisme technologique, hein, pour faire court. Et donc, du coup, c'est aussi voilà, de saisir de sujets comme ça qui sont plus complexes, qui ne sont pas racontés ou mal racontés. Et aussi de mettre en avant, en faisant ça, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour Blast, de mettre en avant le travail des médias indépendants. Il y a beaucoup de médias indépendants aujourd'hui, de presse écrite, qui font un travail remarquable. Je pense notamment à Bastamag, justement, dont je relayais le travail dans ce reportage avec l'Observatoire des multinationales. Mais il y a aussi La Relève et la Peste, avec qui on a déjà acté un partenariat. Et il y en a plein d'autres. Et l'idée, ça va aussi être de mettre en avant leur travail et de, oui, à travers Blast, faire émerger un autre récit en ayant aussi toute une diversité de formats et un ton un peu différent, quoi. On va pas faire de la télé sur Internet.
Denis Robert, quand vous avez été éjecté, on peut le dire, du média, un des arguments, une des choses que vous avez avancé, c'est un profond désaccord idéologique avec les équipes du média. Justement, expliquez-nous pourquoi, pour vous, et comment Blast peut se positionner sans avoir un rapport idéologique sur son sujet.
C'est une question assez cruciale et c'est un peu compliqué d'y répondre, mais pour faire simple, l'idée de faire du journalisme, c'est quoi être journaliste aujourd'hui ? C'est d'être curieux, c'est d'avoir une sorte de libre arbitre et de regarder le monde, de poser des questions et de pas avoir peur de poser des questions naïves et de pas avoir de parti pris, c'est-à-dire que même si je vote à droite, à gauche, écolo ou je pense des choses comme ça, quand je rencontre des gens, quand je suis face à des personnes qui pensent pas comme moi, j'essaie de creuser, de poser mes questions et de les poser de plus en plus jusqu'à ce que j'arrive à comprendre. Et une fois que j'arrive à comprendre, je rends compte de tout ça. C'est assez simple finalement quand on l'explique comme ça. Mais après, la chose, c'est qu'il faut la mettre en pratique. C'est qu'il faut que tous les jours, sur tous les sujets, en particulier sur les sujets politiques, avoir à la fois cette curiosité, cette naïveté et cette envie d'en découdre. Donc, ça semble un peu simple quand j'énonce ça comme ça, mais j'y crois vraiment. C'est-à-dire qu'on revient des principes de base de ce qu'est un journaliste. Et un journaliste n'est pas au départ un être qui pense avec son idéologie, qui veut démontrer absolument une thèse politique, etc. On pense tous, on est tous d'ailleurs, on va pas se cacher, on est tous plutôt à gauche à Blast, mais c'est pas pour ça que là ce que je voudrais, c'est inviter tous les partis seront invités, il y aura des débats politiques, il y aura des... Donc on va aussi inviter des gens, parce que quand on allume sa télévision, on voit toujours les mêmes, quoi. Dans les débats, c'est toujours les mêmes personnes. On nous a absolument conditionnés sur un second tour Macron-Le Pen. Et moi, je pense qu'il faut... On a, par exemple, si je vous dis qu'il faut empêcher ce second tour Macron-Le Pen, mon propos, il peut être idéologique et on peut l'interpréter comme tel, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de conditionnement. Alors, je ne sais pas si les journalistes qui pratiquent tous les jours dans les médias sont conscients de ça, mais ils ont fabriqué un second tour Macron-Le Pen. Et ça avantage ces deux personnages, parce qu'Emmanuel Macron et La République En Marche ont tout intérêt à créer cet épouvantail, et cet épouvantail est de moins en moins un épouvantail en face. Et donc, on va peut-être vers une, ce que je pense être une catastrophe si Marine Le Pen arrive au pouvoir, mais la catastrophe sera, à mon sens, la même si c'est Emmanuel Macron et La République En Marche qui gagnent, parce que ce qu'on a vécu depuis maintenant bientôt 4 ans, c'est quand même une sorte d'horreur économique, sociale. Et c'est aussi parce que les journalistes et les médias n'ont pas fait leur travail. Et c'est aussi parce que ces médias appartiennent ou à un service public qui est complètement timoré au niveau de sa tête, ou à des grands groupes dont l'objectif n'est pas le journalisme, n'est pas l'information, mais c'est en quelque sorte le trafic d'influence. Donc nous, on est libre et indépendant. Ce sont deux mots qui sont assez beaux, mais on a pu le prouver par la campagne. C'est-à-dire que là, on est les gens qui nous ont donné ces 930 000 euros, ça va de 10 euros à 1 000 ou 2 000, voire 10 000 euros pour certains. Ce sont des milliers de personnes qui, en fait, ont une grande générosité parce qu'ils veulent que ce média devienne un média d'intérêt public et d'intérêt général. Ce sont des gens qui... Alors, évidemment, quand on est abonné à Blast, on a accès à certains programmes privilégiés, mais la motivation de départ, c'est que ces gens sont fatigués des autres médias et nous ont fait confiance et veulent qu'on fasse un média qui parle de choses dont les autres ne parlent pas.
Prenons un exemple très concret, et là je vais me tourner vers Paloma Moritz, par exemple. L'idée de Blast, c'est aussi de faire beaucoup de live, de vidéos en direct sur Internet. C'est ce qui a fait le succès de BFM TV, c'est ce qui fait aussi le succès de Brut, dont on pourrait imaginer quelques similitudes. Comment est-ce que Blast peut se positionner justement sur de la vidéo en direct et ne pas faire comme les autres, tout simplement ?
Oui, alors simplement juste pour revenir sur ce que disait Denis tout à l'heure, je pense que il y a vraiment une dimension d'intégrité très forte chez tous les journalistes de Blast et que le fait d'être engagé, pour moi, rend encore plus méthodique et sérieux dans la façon de traiter son sujet, parce qu'on ne veut pas être pris à défaut d'avoir un parti pris. Et en fait, moi je le vois en tout cas chez Salomé Sacquet qui dirige la rubrique économie, chez d'autres, etc. Cette volonté vraiment de penser contre soi-même en permanence pour être toujours juste dans son traitement de l'information. Pour revenir...
Très concrètement, pour vous, par exemple, sur l'écologie, si on fait un sujet pour ou contre le nucléaire sur Blast, comment est-ce que vous l'aborderez ?
Bah exactement, c'est que typiquement, moi, je suis engagée sur les questions environnementales, je ne m'en cache pas. J'ai fait une vidéo où j'expliquais comment je voyais l'écologie sur Blast et je l'ai dit. Mais ça ne m'empêche pas, en fait, de penser contre moi-même en permanence. Et donc, oui, d'aller interroger des personnes qui ne pensent pas forcément comme moi. Et en fait, d'une certaine manière, on s'en moque totalement de ce que je pense. L'important, c'est que je fasse un reportage qui soit juste, qui soit intelligent et qui donne des clés pour comprendre, pour réfléchir et pourquoi pas pour s'engager si les personnes en ont envie aussi. Je pense que ça, c'est on en a parlé avec Denis lors du live qu'on a fait. Moi, il y a quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est le journalisme d'impact, c'est le journalisme de solution, c'est de se dire que voilà, on peut inventer une autre forme de journalisme aujourd'hui et ne pas forcément que se contenter de dénoncer, mais aussi montrer ce qui fonctionne, montrer des solutions et puis donner aussi des pistes aux personnes pour être acteurs et actrices du changement qu'ils ont envie de voir dans la société. Et pour revenir à la question du live, le Blast ne va pas faire que des lives, Blast va faire plein de formats différents. Maintenant, il y a une des choses qu'on dit dans la campagne de crowdfunding, c'est qu'on veut aller à terme concurrencer justement BFM TV, CNews sur le terrain du live. On a fait une première tentative ce week-end avec la marche pour le climat. L'idée, par exemple, pendant cette marche, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui connaît très 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 bien le sujet et qui est capable de nourrir le live, qui n'est pas que en train de décrire ce qu'il se passe, mais vraiment de mettre en perspective ce qu'il se passe et d'essayer d'avoir un maximum de personnes différentes, d'interlocuteurs différents pour justement raconter cette marche-là à travers plein de points de vue et ne pas tomber justement dans ce côté un peu micro-trottoir qui souvent n'apporte pas grand-chose et qui est quand même très pratiqué aussi sur les grandes chaînes télé.
RFI.
Écoutez toujours l'atelier des médias de RFI. Je suis avec les journalistes Denis Robert et Paloma Moritz qui vont lancer très prochainement un nouveau média nommé Blast. Ouvrons une petite séquence de questions courtes, réponses courtes. Quel type de téléspectateur êtes-vous face à l'information, Denis Robert ?
Moi, je suis un zappeur assez compulsif, c'est-à-dire, et surtout depuis que je me suis remis aux affaires, en quelque sorte, je passe pas mal de temps sur les chaînes Tout Info, ce que je ne faisais pas avant. Alors, je pense pas avoir gagné un confort intellectuel à faire ça, et c'est parfois fatigant, mais je suis chaque fois édifié par ce que je vois. C'est pas possible que ça continue comme ça, quoi. Donc, je regarde pas mal la télé, quand même.
Paloma Moritz, quel type d'internaute êtes-vous face à l'information ?
J'ai un peu un rapport mixte à l'information, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un travail de veille où je vais aller très vite et je vais regarder exactement tout ce qui se passe sur des sujets qui m'intéressent ou aussi d'autres sujets. Et j'ai aussi un travail où j'ai je suis plus dans un temps long, dans un rapport au temps long. Par rapport à ça, je suis une grande consommatrice de podcasts. Je trouve que c'est un format qui est absolument génial. Donc voilà, et je regarde aussi beaucoup de documentaires en ligne parce que voilà, moi c'est de là d'où je viens aussi le documentaire. Donc, et je pense que le temps long est essentiel aujourd'hui.
Denis Robert, vous êtes aussi artiste plasticien, je ne l'ai pas dit en vous présentant. Avez-vous le temps de créer actuellement ?
Bah, ma création, c'est Blast, quoi. Et donc, c'est vrai que je suis dans une grande frustration au niveau de mon activité, on va dire, picturale, parce que ça fait presque maintenant 3 ans que j'ai plus refait de toile. Et alors, j'ai un atelier chez moi qui prend la poussière. De la même manière, l'écriture, j'écris parfois la nuit, je prends des notes pour mon prochain roman, mais j'ai laissé ça de côté parce que, en tout cas, jusqu'à la fin de la campagne électorale, je vais être complètement mobilisé par Blast et par les enquêtes, par tout ce qu'on a à faire, et la tâche est quand même assez immense, quoi.
Paloma, quand vous étiez enfant, à vos 10 ans, vous avez, pendant 5 ans, fait partie de la troupe de théâtre des Tréteaux Blancs. Qu'avez-vous appris dans cet art dont vous vous servez quotidiennement dans votre métier de journaliste ?
Ah, très bonne question. Dans l'art du théâtre, déjà, bon, c'est une troupe particulière, c'est une troupe qui joue pour les enfants malades dans les hôpitaux. Donc, ce que j'ai appris, c'est le regard sur la différence et la tolérance, déjà, au Tréteau Blanc. Et ensuite, je pense que ce que j'ai appris, c'est à poser ma voix, à savoir raconter une histoire. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ce qu'on fait aussi quand on est journaliste. Alors, bon, on raconte l'histoire, en quelque sorte, enfin, l'histoire en cours. Mais il y a tout un travail de création et il y a tout un travail d'incarnation qui n'est pas ce dont j'ai forcément l'habitude. Moi, je le faisais pas beaucoup. Là, à Blast, mon dernier reportage, je l'ai incarné. On va voir comment tout ça va évoluer, mais on voit bien aussi que de plus en plus, quand on veut faire de l'information sur Internet et intéresser un maximum de gens, quand c'est incarné, en général, c'est plus humain, c'est incarné, et donc ça peut aussi aider des personnes qui ne sont pas forcément fans du reportage classique à s'intéresser à des sujets qui ne les intéresseraient pas normalement.
Parlons du modèle économique de Blast. Vous avez beaucoup parlé des questions d'indépendance, des questions de liberté. Vous voulez le faire justement avec l'appui d'une très forte communauté. Cette campagne de financement participatif qui a duré pendant nombreuses semaines sur la plateforme KissKissBankBank, son objectif à la base était de recueillir 100 000 euros pour le lancement. Vous avez dépassé les 900 000 euros. C'est un score énorme. Vous avez même dit que c'est sans doute le plus gros score pour une campagne participative sur un projet média ou un objet culturel. Paloma, Moritz, qu'est-ce que vous en retenez au niveau de cette expérience-là et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux gens qui nous écoutent et auraient envie de lancer leur campagne de financement participatif ?
Bah, ce que j'en retiens, c'est énormément d'espoir, en fait. Je trouve ça assez dingue que dans un tel contexte de crise économique et sociale, de pandémie, où finalement, on assiste à un pic de précarité en France, que des personnes aient voulu donner pour un média indépendant. Ça veut dire que le projet parlait, ça veut dire qu'on a su raconter une histoire qui donnait envie, mais surtout qu'il y a une attente, qu'en fait, on vient combler un vide. Moi, c'est ça que je retiens surtout. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a quand même des gens qui, à chaque fois qu'on ressortait une nouvelle vidéo, par exemple, en disant on va travailler avec David Dufresne ou Pablo Servigne va faire une carte blanche ou des choses comme ça, les gens disaient mais je vais vous redonner. Et en fait, là, j'ai plus d'argent parce que c'est la fin du mois, mais attendez le mois prochain, je vais vous redonner. Donc, des personnes qui, parfois, le 20 du mois, n'avaient plus d'argent, mais avaient quand même envie de remettre 20 ou 30 euros sur Blast. Et ça, moi, je trouve ça assez fou, même dans mes amis. J'en ai beaucoup qui ont vraiment mis, qui ont mis des sommes où ils mettaient minimum 60 euros. 60 euros, c'est beaucoup. Moi, c'est pas forcément. Quand je participe à une campagne de crowdfunding, je mets rarement au-dessus de 20 ou 30 euros parce que je n'en ai pas les moyens. Et en fait, non, là, les gens se sont dit, moi, je suis prêt à faire ce sacrifice financier parce que cette idée-là, je veux qu'elle existe, je veux qu'elle prenne vie. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Et donc, si j'avais des conseils à donner à des personnes qui auraient envie de lancer leur média, déjà, moi, je trouve ça merveilleux. Plus il y a de médias indépendants, mieux c'est. Ce serait justement d'avoir une ligne éditoriale forte, d'avoir un propos fort et d'avoir une vision du monde, en fait. C'est ce qu'on dit dans la campagne. C'est que, voilà, un média, c'est un regard sur le monde. Et nous, on a proposé un certain regard sur le monde, une certaine façon de traiter l'information. Et ça a trouvé un écho très fort chez beaucoup de gens.
Denis Robert, vous qui menez toute cette équipe de Blast, vous vous êtes retrouvé au cœur d'une affaire ces derniers dernières semaines. Maxime Renaï, qui était un des cofondateurs de Blast, qui devait piloter votre pôle investigation, a quitté le navire au mois de mars. Il dénonçait le soutien financier d'un homme d'affaires déjà pointé dans le financement de l'association Anticor. C'est un homme qui possède des sociétés offshore, notamment au Luxembourg, à Singapour. Alors, sans entrer dans le détail, pensez-vous que vous avez fait une erreur, ne serait-ce qu'en envisageant de recevoir de l'argent de ce type de personnes pour lancer Blast?
Non, la principale erreur que j'ai faite, c'est une erreur de casting, c'est de demander à ce Maxime Renaï de rejoindre l'équipe, puisque j'ai été trahi, on a tous été trahis par quelqu'un qui, depuis des mois et des mois, nous a enregistrés à notre insu pour monter une sorte de cabale dont j'ai pu démontrer, mais on va sur les réseaux sociaux, on trouve les réponses à toutes ces questions, que tout ça est faux. C'est-à-dire que les accusations qui sont portées sont fausses. On n'a jamais accepté l'argent de cet homme, de celui que vous dites qu'il n'a pas de société offshore. Il a un holding à Luxembourg et c'est pas interdit d'avoir un holding à Luxembourg. Et il y a eu un débat en interne. Moi, je pensais que, et je pense toujours d'ailleurs, que quand on veut créer un média, lutter contre la corruption, etc., dans la mesure où j'étais sûr que l'origine de l'argent était claire, je ne voyais pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on est un mauvais homme. Enfin, il y avait quelque chose que j'ai essayé de défendre. On a eu un débat au mois de décembre sur cette question. J'ai été mis en minorité et depuis le mois de décembre, j'ai accepté qu'on a refusé cet argent. On doit être quand même... Alors que des milliardaires qui ont des tas de sociétés offshore ailleurs possèdent quasiment tous les médias en France, ça pose de problèmes à personne. Nous qui avons refusé l'argent de ce milliardaire, on est attaqué d'une manière complètement injuste aujourd'hui. Donc j'ai pas de regret, moi. Je suis en accord complet avec ma conscience. Je vous dis, mon seul regret, c'est qu'on ait été attaqué comme ça d'une manière aussi injuste, et je le suis toujours d'ailleurs sur les réseaux sociaux, heureusement par une minorité, mais les gens qui me connaissent, qui connaissent mon parcours et tout, savent que cette campagne est complètement inique, quoi. Et donc, voilà, quoi.
Et donc vous allez miser sur la transparence pour la suite et avec, j'imagine, une volonté de montrer régulièrement d'où vient l'argent des gens qui vous soutiennent.
Et justement, c'est un point important. D'une part, on peut vérifier en allant sur la plateforme que l'argent, ce sont des milliers de personnes, il n'y a pas de gros donateurs, donc tout est clean de ce point de vue-là. Et on n'est pas une entreprise commerciale, on est une société coopérative à intérêt collectif. Donc tous les comptes sont publiés, l'échelle des salaires est connue, etc. Tout ce qu'on a raconté sur les salaires à Blast, les échelles de salaire et tout, c'est faux. Et c'est... Après, il suffit d'aller vérifier. C'est-à-dire, en deux clics, on peut vérifier qu'on est hyper transparent par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, je vois pas comment ça pourrait être autrement, parce que si on commence à mentir et à tricher quand on fabrique un média comme Blast, ce serait foutu dès le départ. Donc il y a une sorte de devoir, de nécessité à être transparent par rapport au financement, et avant tout, quoi. Donc pour ça, moi, j'ai pas de souci. J'ai simplement été éberlué de voir les accusations qui étaient portées contre nous. Mais je pense que c'est lié au succès, c'est-à-dire que plus on a du succès, plus on devient un contre-pouvoir crédible, je pense, ou pouvoir politique, plus on est attaqué et plus on va être attaqué. Et je pense que derrière la mini-campagne qu'il y a eu en fin de campagne, il y a des intérêts politiques dont on découvrira peut-être bientôt qui ne sont pas ceux auxquels on pensait.
Paloma Pradal, quelques mots pour terminer avec vous. L'objectif de Blast est également de miser sur la culture du don, sur les abonnés. Combien d'abonnés visez-vous là pour les mois à venir ?
En fait, c'est l'idée, c'est d'essayer d'avoir de pouvoir tenir, comme le disait Denis, le but de Blast n'est pas de faire de l'argent, c'est juste de pouvoir tenir. Donc c'est dans l'idéal, ce serait de doubler le nombre d'abonnés qu'on a aujourd'hui. Donc on en a 9 000, et d'ici à septembre, d'arriver à 18 000, 20 000. Moi, je pense que c'est possible, et surtout venant d'un média indépendant qui était sur un modèle payant, je crois vraiment aujourd'hui aux modèles qui sont un peu comme le Guardian, etc., qui donnent accès à l'information, qui donne un certain nombre d'avantages aux abonnés.
Mais qui reste gratuit en accès libre,
parce que l'information doit rester gratuite et libre, parce que sinon on ne s'adresse pas à tout le monde, malheureusement.
Merci beaucoup Paloma Moritz.
Et merci
Denis Robert d'avoir répondu aux questions de l'atelier des médias de RFI. Notre entretien est disponible en version longue dans le podcast de l'atelier des médias. Je dis bon lancement à Blast. Plus d'informations, c'est sur blast-info.fr, un site qui vient d'être lancé cette semaine.
L'atelier des médias.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui donne à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Partons à Yamoussoukro, où le mondoblogueur ivoirien Yves Landry Kwame est engagé pour la cause environnementale. Dans un article publié récemment, il présente un sentiment qui affecte la jeunesse mondiale, l'éco-anxiété.
Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir, disait Einstein. Cette idée passe aujourd'hui pour le leitmotiv des millions de jeunes engagés à travers le monde. Ils jouissent d'une richesse informationnelle débordante et font preuve d'une conscience écologique plus grande que celle des générations passées. Leur prise de position laisse transparaître la colère, la peur de l'avenir et l'indignation. Ils font entendre leur voix partout où l'occasion leur est donnée. Mais cette peur de l'avenir, bien que légitime, engendre par la même occasion un sentiment d'éco-anxiété. Devant la télévision ou sur Internet, ces jeunes ne sentent aucun signe d'espoir pour la planète. Ils sont rongés par le malaise d'être sur une planète qui brûle à un rythme infernal. Ils développent ainsi la hantise de ce que sera l'humanité dans 10, 20 ou 30 ans. Béatrice a par exemple pris conscience très tôt de l'impact de ses actions sur la planète. Elle suit l'actualité environnementale et sait en quoi consiste son empreinte écologique. Sur les réseaux sociaux, elle est intéressée par toutes les astuces qui pourraient l'aider à réduire son impact sur les écosystèmes. Mais le problème, c'est que l'impression lui fait peu. Car à chaque fois qu'elle essaie de suivre l'actualité environnementale, son moral prend un coup. Sur les réseaux sociaux, elle reçoit également et régulièrement des vidéos qui dénoncent le traitement troublant des animaux dans les abattoirs. L'enquête sur le cacao ivoirien révélant l'exploitation des enfants lui a fait perdre son appétence pour le chocolat. Chaque jour, elle veut réduire davantage son impact écologique mais culpabilise de ne pas pouvoir faire plus. Le plaisir de s'informer s'est finalement transformé en angoisse et en pression sociale. Des jeunes comme Béatrice, il y en a des millions aujourd'hui. Face à toutes ces actualités, les jeunes consommateurs ont peur de ce qui est annoncé d'ici 100 ans pour notre planète. Ils se nourrissent d'informations calibrées sur des sujets en réalité plus complexes. Les bonnes nouvelles ne sont pas ébruitées au profit des mauvaises nouvelles qui suscitent plus de réactions. Cette coïncité les empêche de vivre et d'exercer un engagement juste. Pour en guérir, prendre la distance face aux informations synthétisées se révèle une piste importante. Car si l'objectif visé par les médias depuis quelques années est de pousser les jeunes à agir, il provoque surtout un sentiment de culpabilité. Je crois que tout citoyen a le droit de choisir sa façon de s'engager. Il a le droit de suivre et ne pas suivre. En réalité, malgré la diffusion et l'hyperbolisation croissante des conséquences du réchauffement climatique, les habitudes demeurent consuméristes. Et nombreux sont ces jeunes qui ne voient plus l'intérêt de se priver de certaines habitudes, puisque de toute façon, l'apocalypse écologique est annoncée. Alors médias et journalistes, il est temps de changer de stratégie.
Mondoblog.org.
C'était le mondoblogueur ivoirien Yves Landry Kwame qui nous présentait l'éco-anxiété, grand malaise de la jeunesse, consciente que l'écologie n'est pas suffisamment une préoccupation mondiale. Son billet est à retrouver sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission que vous pouvez écouter en version longue sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict, TuneIn ou encore Apple Podcast. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous 5 étoiles sur ces applications, cela nous permet d'être visible et donc encore plus écouté. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr, je vous répondrai. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission, à Pauline Linard-Cazanave et Juliette Labracherie qui ont orchestré Mondoblog Audio. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.